Bon, et la question du carburant, alors finalement ?
Je pense qu'il y a un sujet essentiel. Il y a un sujet essentiel, c'est que la remise sur les carburants doit prendre fin novembre. Si par cas on ne veut pas arriver en récession économique, il est impératif de prolonger les aides sur deux points. Un, les aides sur l'essence, et je pense qu'il faut que le gouvernement réfléchisse à un autre sujet, c'est un bouclier tarifaire et l'élargir aux entreprises, notamment les moyennes entreprises. Parce qu'actuellement, le bouclier tarifaire concerne les petites entreprises, mais pas les entreprises de taille moyenne. Moi, par exemple, ce qu'on m'a raconté, c'est que comme les contrats sont négociés à 1 ou 2 ans, certaines entreprises se voient imposer maintenant, avant la fin du bouclier tarifaire, une renégociation de contrat, et les prix ont été multipliés par 5 ou par 6, certaines passant de 2000 à 10 000 euros de forfait. Est-ce que les petites entreprises et les moyennes entreprises pourront tenir? C'est un sujet pour Emmanuel Macron, parce que c'est un double enjeu. Ouais. Certes, ça coûte cher en termes de finances publiques, mais si par cas les entreprises sont obligées de fermer, ça lui coûtera encore plus cher en termes de fermeture, en termes d'assurance chômage et d'indemnisation.
Je suis tout à fait d'accord. Le carburant, c'est le sujet central dans les verbatims qualitatifs, dans les raisons de du mécontentement dans le sondage IFOP JDD. Le pouvoir d'achat, en général, le carburant en particulier, sort de manière massive. Et sur la gestion de la crise, de la grève des raffineries, alors les critiques sont contradictoires, pourrissement raté à droite, compte et réquisition à gauche, mais la critique commune, c'est un sentiment de déconnexion. C'est-à-dire, vous avez mal anticipé cette grève, et donc c'est la preuve que vous ne connaissez pas un pays où pour 2/3, voire 3/4 des Français, la bagnole, pour être un peu trivial, oui, c'est absolument central. C'est absolument massif. Et c'est vrai que le gouvernement ne pourra pas ne pas bouger sur cette question du carburant, parce que en dehors des métropoles où le carburant est aussi un enjeu, il y a cette France périphérique, il y a ces 24% de Français qui vivent en commune rurale, il y a même jusque en Île-de-France, dans les Yvelines, oui, dans la Seine-et-Marne du train, une dépendance à la voiture, au carburant, qui fait que ça bloque le pays.
Certains en sont venus quand même à se dire avec le matraquage de la voiture électrique du gouvernement, c'était pas une feinte pour dire, vous voyez bien, à un moment donné, le carburant, il n'y en aura plus, préparez-vous, achetez tous des voitures électriques.
Mais la voiture électrique, ils oublient deux sujets essentiels. C'est que d'une part, les batteries dépendent et sont possédées quasiment intégralement, il y a un monopole de la Chine, et surtout, ils ont une avance technologique sur nous, et comme on a signé un traité de libre-échange sous l'impulsion de l'Allemagne, ils vont nous inonder en termes de voitures électriques.
Ça a commencé, vous êtes allé au mondial?
Non, pas encore, mais...
c'est fini, là. Dommage.
Et le deuxième...
Trois Peugeot, le reste, c'est des voitures chinoises.
Et le deuxième sujet, c'est qu'en fait, sur l'électricité, c'était rentable de penser à l'électrique il y a quelques années, mais maintenant, le prix de l'électricité a monté. Je pense que le gouvernement n'aura pas le choix. Soit il change de stratégie, dans la mesure où jamais on rattrapera la Chine, il faut penser au coup d'après, soit on a un autre sujet, mais ça, c'est peut-être un sujet que doit aborder Emmanuel Macron à Rome, avec Mélanie, c'est il faut affronter l'Allemagne sur le marché européen de l'électricité. Je pense que les Allemands ont conduit...
ça a déjà commencé, ça. Avez vu ce qui s'est passé à Bruxelles?
Oui, tout à fait. Je pense que justement, Emmanuel Macron, je pense qu'il doit nous écouter de Rome. Il doit faire alliance.
Pour ça, parce qu'il est... Ou alors il a des...
Il devrait faire alliance avec Mélanie sur certains sujets. Je pense notamment à la réforme de Schengen, au marché européen de l'électricité et au droit de la concurrence qui nous empêche de créer des champions européens.
Revenons à de la politique. Faire alliance avec Mélanie, comme vous dites, c'est en France susciter une levée de boucliers à gauche, au centre-gauche, voire au centre-droit, et donc tout ce qui est l'ADN du macronisme sur on ne peut pas discuter, faire des affaires avec Madame Mélanie. Il faudra en faire. Ouais. Il faudra bien sûr en faire, mais là aussi, il a relativement les manières. Mais c'est vrai que quand on interroge les Français sur le couple franco-allemand, jamais le sentiment que ce couple est primordial pour faire avancer l'Europe a été aussi faible. Donc on est aussi peut-être sur cette question européenne, avec cette crise énergétique, avec cette guerre à 2 heures de Paris, à la croisée des chemins.
Parce que jamais les autres pays européens qu'on entendait peu se font entendre de plus en plus.
Il faut être pragmatique. Le général de Gaulle disait que les États n'ont pas d'amis, ils ont que des intérêts. Qui a permis de faire passer la taxonomie, de faire entrer le nucléaire dans la taxonomie européenne? C'est grâce à l'aide de la Hongrie, de Viktor Orban et de la République tchèque, qui pourtant sont pas des alliés naturels d'Emmanuel Macron. Et sur l'ensemble des sujets, Emmanuel Macron est mis en minorité. Scholz l'affronte ouvertement sur pas mal de sujets. Les pays du Nord ne soutiennent plus Emmanuel Macron sur l'ensemble des différents points depuis qu'il a mis en place le groupe Renew Renaissance au Parlement européen. Les pays d'Europe du Sud ont des intérêts d'intérêts qui sont divergents, de plus en plus divergents avec l'Allemagne sur les questions économiques, de relance économique, de protection migratoire.
Vous voulez
et
en
je
venir
pense,
où,
oui, je pense qu'Emmanuel Macron doit devenir, et c'est le chemin que dresse Mélanie, non pas qu'il doit faire alliance avec Mélanie, mais qu'il doit devenir le champion des pays d'Europe du Sud pour aller contester l'hégémonie allemande. Et je pense que les pays d'Europe du Nord sont en train de lâcher l'Allemagne, comme les pays d'Europe de l'Est, comme
donc
la Pologne et la Hongrie.
C'est la fin d'un business model.
Non, enfin, et je pense qu'en fait, il faut que la France prenne un leadership pour montrer qu'il y a une alternative de politique européenne à celle de l'Allemagne.
60 ans après le traité de l'Élysée, même si ça se tient ce que vous dites sur le papier, je ne crois pas que ouvertement la France pourra opérer un tel renversement d'alliance. Mais en tout cas, l'opinion publique n'a jamais été aussi, si je puis dire, à l'écoute ou avoir le sentiment que les choses devaient bouger en Europe.
Merci beaucoup à vous deux. Merci William Tay du Millénaire. Merci à Frédéric Dabi, dont on lit bien sûr toutes les enquêtes d'opinion dans plusieurs journaux et dont notamment dans le journal du dimanche. Dans un instant, le journal de 19h, juste après l'invité sera Xavier Oran, délégué général de Mobilience, pour parler de l'automobile en général, mais aussi de la question des distributeurs. C'est très très important parce que là aussi, c'est la fin peut-être d'un modèle économique. Et puis, panorama à 19h30, panorama sur le quiet quitting, c'est-à-dire la grande démission, plutôt la petite démission, la démission discrète. Voilà, cherchez la traduction. La voilà. À tout de suite pour le journal de 19h.